Bonjour à tous, vous allez entendre un message enregistré à la conférence Ascension 2018 organisée par Newground en France et Nouvelle Frontière France. Si notre famille d'église ou les événements que nous organisons vous intéressent, n'hésitez pas à visiter notre site internet new-ground.fr.
Alors j'ai de la chance de ne pas être traduit ce soir parce que moi mon problème avec les traducteurs c'est qu'ils cherchent toujours à avoir le dernier mot. Alors on m'a demandé ce soir, mais bravo pour les traducteurs, hein, je sais ce que c'est un travail qui est pas facile. Mais c'est un beau travail. Alors, John m'a contacté il y a quelques semaines en me demandant de partager un petit peu sur ce que je fais, sur mon travail, on va dire, dans le monde du business. Et donc, voilà, j'ai passé un peu de temps à réfléchir avec le Seigneur et puis il m'a donné quelques points à voir avec vous ce soir. Déjà, juste avant de démarrer, j'aimerais bien juste définir le terme du marché. Parce qu'en anglais, le terme marketplace semble un peu plus généraliste que le terme marché en français. On pense souvent au marché du village, où on va acheter ses légumes et son pain. Non, moi, je vous parlais du marché qui va couvrir, on va dire, les services gouvernementaux, donc la police, tout ce qui est militaire, les hôpitaux, l'éducation et bien sûr le monde du business. Donc, j'aimerais démarrer en vous posant quelques questions pour vous faire réfléchir. Qui a le plus d'influence dans le marché? Qui est le plus en contact avec les non-croyants? Qui peut, en montrant une façon de faire différente, changer la façon de travailler ou la façon de fonctionner d'une entreprise? Qui peut inventer, développer, mettre sur le marché des produits nouveaux qui peuvent, par exemple, sauver des vies? Qui peut participer à la mise en place, à la gestion, à l'entretien de l'infrastructure, des services publics, pour vous permettre d'avoir de l'eau à votre maison, de l'électricité? Qui peut participer au système éducatif, le système hospitalier? Alors, si vous avez répondu à chacune de ces questions avec « mon pasteur », j'aimerais bien le rencontrer. Mais je pense qu'on est tous d'accord que la réponse à toutes ces questions, c'est nous. C'est le peuple de Dieu. Et dans la même façon où Christ était 100% homme et 100% Dieu, je crois sincèrement qu'il nous appelle à être 100% en mission, tout en étant 100% dans le marché. Donc, quelques autres questions. Où se trouvent les âmes perdues en plus grand nombre? L'entreprise ou l'église? Quel est le lieu qui a le plus besoin de Dieu? La ville ou l'église? La moisson ne se trouve pas dans l'église, mais dans les salles de réunion. Pas au baptistère, mais à côté de la machine à café. Pas dans les bancs de l'église, mais dans les box et les open space. Votre lieu de travail est votre lieu de ministère. Ce n'est pas des lieux différents. Après, on est en France. On a une devise en France, auquel il y a un mot qui s'est rajouté il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, mais vous connaissez la devise: liberté, égalité, fraternité. Le quatrième, vous le connaissez ? Laïcité. Et en fait, on a fait un peu la même chose. On a séparé l'Église et l'État. En faisant ça, on s'est dit, bon, on sépare Dieu du monde séculier. En faisant ça, on a dit, on sépare le business de Dieu, le marché de Dieu. Et on fait quasiment une analogie de Dieu c'est bien, le business c'est mal. Et j'ai parfois, même beaucoup de fois, entendu des gens, surtout dans les milieux dans lesquels je suis, où il y a des chrétiens, ils disent « Oui, mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on gagne de l'argent pour pouvoir payer pour qu'il y ait des missionnaires. En fait, grâce à nous, il y a les pasteurs, il y a les missionnaires, et voilà, nous, c'est notre façon de participer à la machine. » Ils disent « Oui, c'est les missionnaires qui font le vrai travail de Dieu. Ce sont les seuls qui font quelque chose qui est sain et qui plaît à Dieu. Il faut arrêter d'avoir une fausse culpabilité en pensant que de faire de l'argent, c'est mal, et que la pauvreté est noble. Que seuls les missionnaires, les pasteurs, les anciens, les gens qui sont à plein temps dans les églises, sont ceux qui ont un appel de Dieu. Imaginez une petite scène, c'est une grande scène. Vous êtes dans le Stade de France, d'accord? Donc c'est une petite scène. Tout le public, c'est nous. Et sur le terrain de foot, on a ceux qui sont dans le ministère à plein temps. Les pasteurs, les anciens, les missionnaires. Nous, on est là dans les estrades et on se dit, bah oui, mais nous, on a payé, donc c'est pour regarder un petit peu ce qui se passe et c'est à eux de le faire. Donc nous, on va les encourager, on va siffler au moment où il faut, on va chanter au moment qu'il faut. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils sont épuisés. Ils n'en peuvent plus. N'est-ce pas ce qu'on voit un petit peu dans le monde d'aujourd'hui ? Il faut qu'on arrête de se dire que pour être un ministre, il faut avoir une formation particulière. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé le verset dans la Bible qui dit qu'il faut avoir un diplôme de la fac de Vaux-sur-Seine ou de l'académie de Newground pour pouvoir avoir un ministère. En fait, quand je lis Actes 4, je vois que le seul critère pour avoir un ministère, c'est de connaître Jésus. Il faut arrêter d'être des prisonniers de guerre. Moi, j'ai été dans cette position pendant des années, où je me disais, bon, je suis un soldat, mais je suis plus en termes de souffrance. Mais vous êtes des soldats sur un terrain de bataille. L'Église, voyez-la comme votre base sécurisée et fortifiée, là où vous pouvez venir pour passer du temps entre frères et sœurs. Encore plus que des soldats, vous êtes appelés à être des généraux qui ont des missions pour atteindre le cœur de la ville. Vous êtes appelés par Dieu, vous êtes oints pour faire ça. Et ce ministère, c'est le Saint-Esprit qui vous accompagne. Après, si on regarde dans la Bible, le business, le travail dans la Bible, parce que certains vont dire, oui, le travail, c'est mal, il faut passer son temps à prier et à penser à Dieu. Quand moi je lis la Bible, je trouve plein de petites histoires dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Donc je vais vous en donner quelques-uns pour vous montrer qu'il y a bien du travail et des entreprises dans la Bible. Donc travail, par exemple, un des projets que Dieu donna à Adam, donc chef de projet, c'était de nommer tous les animaux. On sent qu'au début, il était bien inspiré. Éléphant, hippopotame. Sauf qu'à la fin, il fatiguait un peu. Chat, chien. Rat, oua. Bon, ça, c'était un travail. Après, en cherchant dur, j'ai réussi à trouver deux entreprises dont je vais vous parler dans le Nouveau Testament. Et en cherchant vraiment dur, j'ai même réussi à retrouver le nom des entreprises et leur logo. Donc, on a le premier, qui est une entreprise de charpente, que vous allez peut-être connaître. Est-ce qu'on peut... WWJD. What would Joseph do? Et cette entreprise, qui est une entreprise familiale, on sait que Joseph est décédé avant que le ministère de Jésus démarre. Jésus étant le frère aîné, c'est lui qui a dû sûrement reprendre les activités de l'entreprise. Et il avait des frères et sœurs, donc c'était lui le chef de famille, c'est lui qui devait gérer. Et donc, en reprenant l'entreprise, il l'a remis à son goût et c'est devenu What would Jesus do? Donc pour ceux qui sont français, c'est « Quel bois Jésus ferait ?» Après, on a une autre entreprise dont j'aimerais vous parler. C'était des fabricants de tentes. C'était la marque Yeshua. Vous connaissez peut-être ? Des tentes faciles à monter. En moins d'un jour, à 12, vous en montez une. Et je pense que quand on regarde ces entreprises, bon, j'extrapole beaucoup de choses, hein, je pense que vous l'avez compris. Quand on regarde ces entreprises, on se dit, tiens, oui, mais Jésus, on pense à son ministère. On se dit, mais attends, pendant qu'il était dans l'entreprise, dans son business, il fallait négocier des contrats, il fallait gérer un stock, manager une équipe qui était principalement composée de membres de famille, mais peut-être d'autres. Il fallait payer des salaires, il fallait anticiper le remplacement de ses outils qui s'usaient au fur et à mesure. Il fallait donc qu'il fasse un profit quand il faisait un travail. Donc Jésus, c'était un businessman. Et maintenant, Paul, Aquila, Priscilla, donc les tentes Yeshua. Alors pareil, on lit dans le Nouveau Testament, on sait qu'ils fabriquaient des tentes et qu'ils arrivaient à subvenir à leurs besoins. On peut présumer du fait qu'ils ne travaillaient sûrement pas 80 heures par semaine à fabriquer des tentes, sinon ils auraient peu de temps et peu d'énergie pour faire autre. Donc on sait qu'il devait quand même bien travailler et puis bien vendre. Donc de nouveau, on a Paul, Aquilas et Priscilla, des businessmen et women. Après, dans un exemple personnel, je vais vous parler un petit peu plus après de ce que j'ai fait moi dans le business et quelques exemples de projets qu'on a pu réaliser. Ce que nous, on a tendance à dire, c'est pas toujours ce que la chose vaut pour moi, c'est combien elle vaut pour mon client. Vous allez peut-être me dire, oula, péché. combien vaut la clé d'un coffre au trésor? Quelques euros, mais le trésor qui est dedans, peut-être des millions. Donc dans mon parcours, moi, le projet le plus profitable que j'ai fait dans ma carrière, c'était sur un petit site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tchernobyl. J'ai eu le privilège d'y aller et de participer au projet de l'arche de confinement qui aujourd'hui repose au-dessus de Tchernobyl et qui confine le réacteur numéro 4 qui avait explosé il y a 30 ans. Et on a vendu des équipements, non pas selon le prix, le coût de revient, mais selon la valeur qu'il y avait sur le marché. Donc on a fait une belle marge, je ne vous le cache pas. Et qu'est-ce que ça nous a permis? Pour la première fois dans notre entreprise, on a pu donner des vraies primes aux gens. On a pu embaucher des nouvelles personnes. Et on a pu voir l'avenir venir avec plus de sérénité. Donc pour moi, je ne vois pas en ça du mal. Le problème avec l'argent, c'est est-ce que nous contrôlons notre argent ou notre argent nous contrôle? Quand Jésus dit à l'homme riche, vends tous tes biens et suis-moi, il était, déjà j'aimerais partager une chose, c'est l'homme riche, on pense souvent à quelqu'un d'autre. On pense souvent à l'homme riche que nous on connaît, celui qui a la Ferrari, celui qui a la belle maison, etc. Mais sachez que quelqu'un d'autre est en train de penser à vous, en train de se dire, tiens, lui c'est l'homme riche. D'accord? Donc on est tous les hommes riches dans ce cas. Et ce n'est pas à cause de sa richesse, ce n'est pas parce que Jésus disait d'avoir des richesses, c'est mal, donc vends tout. Il disait, c'est ta richesse, c'est elle qui a pris possession de toi, et donc c'est pour ça que tu dois t'en séparer. Donc voilà, souvent on cite le verset dans Timothée, je pense que j'avais noté, mais maintenant je l'ai perdu, où on dit l'argent est la racine de tous les maux. Alors, si vous avez peut-être entendu, j'ai loupé un mot en citant ce verset. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Donc l'argent en lui-même n'est pas mal. Maintenant, pour continuer un petit peu sur mon plan de carrière, je vais sauter quelques années dans le passé. Quand Rachel et moi nous sommes rencontrés, on était dans notre avant-dernière année d'études et on a décidé de se marier assez rapidement. Donc on était mariés alors qu'il nous restait encore une année à faire après. Donc on s'est dit, bon, de toute façon, maintenant on vit ensemble, donc on va pouvoir mettre les choses en commun et partager les factures et choses comme ça, donc ça va être bien. Et ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on s'est marié en avril et que la dernière année démarrait en octobre, on s'est dit, bon, bah, on va bosser tout l'été, on va gagner de l'argent, on va mettre ça de côté, ça nous permettra de survivre. Donc on a tous les deux pris des jobs pour l'été, sauf que juste à la fin de notre job d'été, j'ai été convoqué par le PDG. Toujours un peu tendu quand ça arrive. Le PDG donc m'invite dans son bureau, il me dit « Bon, John, je suis très content de ton travail depuis cet été. J'aimerais que tu continues sur l'année qui suit, mais tu travailleras les heures que tu voudras travailler. Je ne te mets aucune imposition d'heure, je te paierai au résultat. » Et moi, sur le coup, j'ai fait « c'est pas mal ça. » Parce que je savais comment atteindre un bon résultat sans trop travailler. Et ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire de David et Goliath. Parce que l'histoire de David et Goliath, on la prend souvent sur l'aspect spirituel. Et j'aimerais vous la présenter sous un autre aspect, un aspect un peu plus business. Donc, on a David, qui est partenaire junior dans l'entreprise familiale. Il vient faire une livraison Uber Eats pour ses frères. Durant cette livraison, il entend le défi d'un concurrent, Goliath, et voit les employés de Saul trembler. David, un homme de Dieu, révolté par ce défi aux armées de Dieu, par contre, il est businessman. Et l'une des premières choses qu'il demande, c'est « Qu'est-ce qu'on va faire pour la personne qui arrive à tuer ce Philistin ?» Donc, il avait déjà commencé à réfléchir au truc. Imaginez-vous devant un deal que vous savez que vous ne pouvez perdre, que vous savez que vous avez Dieu derrière vous. Donc David, lui, il a tout de suite vu ça, il s'est dit, mais de toute façon, je ne peux pas perdre, parce que moi, j'ai le Dieu Tout-Puissant qui est derrière moi. Et donc, il n'a pas eu de problème, il n'a pas vu d'incompatibilité entre une tâche spirituelle et une récompense matérielle. Il n'a pas cherché à dichotomiser entre le spirituel et le matériel. Il savait déjà que Dieu était avec lui. Parce que quand on lit dans l'histoire qu'il avait réussi à se défendre contre des ours et des lions, Je pense pas qu'il le faisait tout seul. Donc, revenons sur ma petite histoire. Donc, j'étais présenté, j'avais une proposition qui était, on va dire, assez alléchante. Donc, moi, j'ai dit, bien sûr que oui, merci. Et quelques jours plus tard, donc on était parti en vacances après, et durant ces vacances, donc on était environ 6 mois après notre mariage, on découvre que Rachel est enceinte. Donc, c'était mi-fin septembre, et on redémarrait notre année d'études en octobre, et on s'était dit, ah, super bon timing. Et ce job, au final, donc le Seigneur nous l'avait déjà donné. Et pendant toute l'année de notre dernière année d'études, je travaillais, si je vous le dis honnêtement, entre 10 et 15 heures par mois. Et je devais gagner l'équivalent d'un SMIC. Après, parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup au futur en me disant toujours comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. J'avais une femme, dernière année d'études, et un enfant qui allait arriver pile poil au moment de nos derniers examens. Bon, ça, c'était plus un problème pour Rachel que pour moi, surtout pour ses examens. Et en fait, dans l'entreprise où j'étais, on utilisait une entreprise de marketing qui faisait notre marketing. Et un jour, après une réunion, la dame me prend à part et me dit « Écoute, John, qu'est-ce que tu cherches à faire après tes études ?» Je dis, justement, j'aimerais bien avoir un vrai job et pas juste un job que je fais, qui avait quand même des limitations. Et elle me dit, tiens, je travaille pour une entreprise, une grosse ingénierie dans la région, qui commence à gagner du business en France, et ils cherchent un ingénieur qui est bilingue et qui a une grosse tendance commerciale. J'ai répondu présent. Et donc, on était en février, Louis est arrivé en juin, donc encore plusieurs mois avant que Louis arrive, on avait déjà l'avenir qui était posé et le Seigneur nous avait guidés. Après, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu comme le peuple d'Israël qui a été nourri, logé, blanchi par le Seigneur pendant 40 ans, mais qui avait toujours ses doutes. Et j'avais beau voir la main de Dieu dans toutes les choses, est-ce que c'est pour ça que j'étais un à fond et bouillant pour Dieu? Je partageais la bonne nouvelle avec tout le monde, tous mes collègues sont devenus chrétiens, etc. Non, pas vraiment. Je vous avoue que j'avais perdu beaucoup de confiance dans ma capacité à raisonner ma foi avec les gens. J'ai eu des discussions avec plein de gens, des athées des fois assez costauds, et quand ils me posaient des questions que je n'arrivais pas à répondre, et après on rentre, on se dit, bon, je ne sais pas trop comment y répondre, puis après on laisse tomber, et puis à chaque fois ça nous casse et on ne sait pas comment reprendre. Et moi j'ai vécu ça, ça ne m'a jamais mis dans une position où je me suis dit Dieu n'existe pas, et Jésus n'a pas existé, et Jésus n'est pas Dieu. Mais par contre, des gros doutes sur est-ce que c'est juste un petit peu trop beau pour être vrai. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Donc pour moi, la conclusion de ces deux histoires-là, déjà, c'est heureusement que la bénédiction de Dieu n'est pas liée à la taille de ma foi. Et j'en suis la preuve. Après, j'aimerais vous parler d'un autre sujet. C'est ce que j'appelle la délocalisation divine. C'est quand le Seigneur utilise votre job pour vous déplacer d'une région, d'une ville, d'un pays. Donc nous, on avait un vrai cœur pour revenir en France. Donc moi, j'avais grandi en France, je suis anglais d'origine, pour ceux qui ne le savent pas, et j'avais en moi le fait que j'allais faire mes études en Angleterre et revenir en France. Et puis j'ai épousé une femme qui, toute sa vie, sentait un appel sur la France, qu'elle allait aller vivre en France un jour. Donc on avait vraiment ça en nous, mais bien sûr, on avait Louis qui était arrivé, et ça compliquait les choses. Mais comme je vous disais, j'étais embauché dans une boîte qui cherchait à développer le marché français, et j'avais une petite carotte qui était, écoute, si tu arrives à développer assez le business, tu iras démarrer une agence quelque part en France, où tu veux. Donc c'était super, et sur le coup, on se dit, oh, okay, très bien, affaire close. Sauf que pas vraiment. Fin 2008, il y a trois choses qui se sont passées, qui ont bouleversé un peu notre vie, et puis surtout ma carrière. Première chose, je rencontre un businessman anglais lors d'un salon sur Lyon. On s'entend bien, rien de plus. Donc on échange, et puis on repart. Deuxièmement, la boîte dans laquelle j'étais annonce qu'ils sont en train d'être rachetés par une boîte française. Donc tout de suite, ça remet un petit peu en question l'idée d'aller démarrer quelque chose en France, et ça a remis des gros doutes. Et puis la troisième chose qui est passée, juste après ça, c'est que ce businessman m'a contacté en me disant « John, j'ai envie de démarrer une entreprise en France et j'aimerais bien le faire avec toi. » Alors, pour vous mettre dans, pour contextualiser la chose, j'avais 24 ans, j'étais marié, j'avais un enfant, je venais juste finir mes études. J'étais pas le profil typique des jeunes de mon âge. Mais ça lui plaisait et il m'a fait confiance. Et ensuite, donc j'ai quitté ce job, je suis allé le rejoindre. Après 18 mois de formation, en octobre 2010, on est arrivé en France. Et on a démarré notre aventure sur la région lyonnaise. Donc ça, c'est comment Dieu nous a délocalisés. Ensuite, comment Dieu m'a accompagné dans les choses que j'ai pu faire. Je ne prétendrai pas que ça a été un long fleuve tranquille et que ça fait presque 10 ans, mais on va dire l'entreprise, on l'a démarré il y a un peu plus de 8 ans, que ça a été un long fleuve tranquille, tout s'est bien passé, on a gagné contrat sur contrat, c'était limite trop facile. Non, ça avait été très difficile. Par contre, à chaque fois, je me suis retrouvé devant un projet ou un contrat où je me suis dit, Seigneur, celui-là, il me le faut. Celui-là, il me le faut. À chaque fois, on l'a eu. Une chose, par contre, que Dieu m'a donnée, et puis il m'en a donné à l'appel, c'est l'audacité. Je n'ai aucun problème de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un pour essayer de choper un rendez-vous et d'aller lui parler de ce que je sais faire ou de ce que mon entreprise sait faire. Donc moi, j'ai parlé avec des gens dans tout le monde, des PDG, des gens de grandes entreprises. Et ça nous a aidé à gagner des beaux contrats. Et donc là, je vous explique juste un petit peu de ce que je fais dans la vie. Donc moi, je travaille dans les environnements confinés les plus dangereux sur Terre. Le type de projet sur lesquels je travaille, il y a un site qui s'appelle Sequoia, qui est dans la région Champagne, est un site de démantèlement d'armes chimiques de la Première Guerre mondiale. Et c'est nous qui avons fait tout le système de filtration d'air pour éviter, dans le cas où il y a une explosion sur le site, parce qu'on y traite des munitions d'armes de guerre, de gaz chimique, donc on va parler de gaz moutarde, de sarin, tarin, etc. Et donc notre système permet de, en fait, pour vous dire simplement, c'est les poumons du bâtiment, dans le cas d'un incident. On est sur le projet ITER, donc les gens qui sont dans le sud connaissent peut-être le projet qui prend place à Cadarache, à côté d'Aix-en-Provence, qui est le premier réacteur de fusion nucléaire au monde. Tchernobyl, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'était l'un de nos plus grands projets à l'international. On est sur plusieurs laboratoires P4, donc c'est peut-être un terme que vous avez entendu, surtout les Lyonnais. Un laboratoire P4, c'est pour manipuler des pathogènes de niveau 4. Les pathogènes de niveau 4, c'est les pathogènes qui n'ont aucun remède connu à l'homme et qui ont des capacités épidémiques et pandémiques importantes. Donc on va parler d'Ebola, fièvre aphteuse, les choses comme ça. Et enfin, en plus c'était dans l'actualité la semaine dernière, on a fait un gros contrat pour le CNES pour les aider par rapport à un robot là qu'ils ont envoyé sur Mars où il fallait qu'ils s'assurent qu'ils ne contaminent pas le sol martien avec des bactéries humaines. Et on les a aidés à mettre en place ce qu'il fallait pour faire ça. Donc la conclusion de tout ça, c'est que en quelques années, là cette année, on a gagné 2 prix. On est arrivé dans le top 100 des champions de la croissance pour les entreprises françaises par les Échos, et dans le top 300 en Europe par le Financial Times. Donc là, je vous ai donné la belle version de l'histoire. Voilà, vous vous dites waouh, c'est beau. Mais je vais vous expliquer un petit peu le côté où on va dire les batailles que j'ai aussi dû avoir. Et l'une de mes plus grosses batailles, et Rachel pourra vous le dire, ça a été la jalousie envers mon associé. D'arriver 2 ans et demi après que moi je démarre pour démarrer cette entreprise française. Et quand il est venu, c'est quelqu'un de très technique, mais très bon sur la technique. Moi, je suis très commercial, mais j'aime la technique aussi. Je suis ingénieur de formation. On s'est dit, à deux, on serait plus fort que tout seul. Et donc, il est venu me rejoindre, et puis là, il est venu me rejoindre au même niveau que moi. Chose qui est ce que j'étais impliqué dans la décision, je voulais ça. Par contre, au plus le temps avançait, le plus je me disais, attends, mon coco, toi, t'es arrivé quand même 2 ans et demi après moi, et maintenant, on fait comme si c'était le bébé qu'on avait eu ensemble. Et j'ai vraiment eu du mal avec ça. Et à un moment, j'ai vraiment eu, comment dire, je ne dirais pas de la haine, parce que la personne en lui-même, c'est quelqu'un de vraiment que j'apprécie et que j'aime beaucoup comme personne. Mais c'était plutôt le clash des rôles. Le Seigneur m'a beaucoup parlé au travers de Matthieu 20, l'histoire des ouvriers qui viennent travailler dans le champ, ceux qui démarrent à l'aube, qui travaillent toute la journée. Il y a des gars qui arrivent 2 heures avant la fin, qui se mettent à bosser à côté d'eux, et à la fin de la journée, ils sont tous payés pareil. Et moi, j'étais dans le cas des premiers ouvriers. Je me disais, ah, c'est pas juste. Est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que j'ai pu grandir dans ça? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a nourri? Pas du tout. Par contre, le jour où j'ai réussi à le remettre dans les mains du Seigneur, je ne peux pas vous expliquer le poids qui s'est enlevé de mes épaules. Et maintenant, c'est un ami proche. Et puis, ça va me lancer sur la prochaine histoire, qui est que, bien que toutes les choses se passent bien en ce moment dans mon job, les choses vont bientôt changer parce que... il faut que je vous donne une grosse image. Il y a 2 ans environ, en septembre 2016, on a eu un week-end d'église, on a eu une personne avec un don prophétique reconnu qui est venue et qui a prophétisé sur moi et qui a prophétisé des choses assez précises qui, sur le coup, c'était hyper encourageant et j'ai adoré. Mais je me suis dit, waouh, ouais, je ne vois pas comment ça va se faire. Mais maintenant, 2 ans plus tard, je peux vous dire, ah ok, maintenant je commence à comprendre. Et effectivement, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment même. Donc, il m'a donné plusieurs lignes dans la parole. Donc, je vais vous les partager. Puis après, je vais vous expliquer comment je vois les choses en ce moment et comment je pense que les choses sont en train de se dérouler qui répondent à ça. Donc, au démarrage, il avait parlé du fait que j'avais besoin d'une permission pour être libéré dans un appel dans le monde séculier. Et c'est vrai, j'avais un blocage un peu dans ma tête, comme je vous disais tout à l'heure, hein, séparation, église, état, travail, Dieu, que j'allais avoir un ministère apostolique dans le monde du business, que j'allais trouver des solutions inspirées par le Saint-Esprit pour résoudre des gros problèmes, et que j'allais conseiller des gens haut placés et des influenceurs d'autres nations. Donc, pas mal comme parole, mais c'est du lourd. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment je pense que chaque partie s'est développée. Donc, d'être libéré pour un appel dans le monde séculier, en fait, ça m'a encouragé à me lancer et j'ai eu un réel déclic. Et ça doit être il y a environ 2 ans, quand j'ai commencé à plonger un petit peu dans l'apologétique et dans la défense de la foi. Et que j'ai commencé à réaliser que il n'y avait pas besoin de mettre son cerveau ou son intelligence de côté pour raisonner l'existence d'un Dieu et l'existence de Jésus et ce que Jésus a fait. Et en découvrant ça, et je continue à le faire parce que c'est un sujet que je trouve juste passionnant, j'ai trouvé qu'on pouvait expliquer à quelqu'un d'une façon belle, logique et systématique. Et arrivé à la fin de conversation, ils font « Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu comme ça ». Et récemment, j'ai eu pas mal de discussions comme ça, je vous en parlais après. Voilà, justement, le ministère apostolique dans le monde du business. Et bien depuis, pardon, j'ai perdu mon lien. Donc le ministère apostolique dans le monde du business, alors on est une dizaine dans l'entreprise, hein, on n'est pas une grosse entreprise. Récemment, j'ai même pu annoncer l'évangile à plusieurs de mes collègues de travail. Là, je vous parle dans les 6-12 derniers mois. Il y en a un maintenant qui est en train de lire la Bible. Je lui ai donné la Bible en 100 pages de Fillmore pour le guider parce que je sentais qu'il voulait démarrer au début. Et je lui ai dit, ça va être tendu quand tu vas arriver sur Lévitique et des trucs comme ça, mais ok, si c'est ça que tu as envie de faire. Et son commentaire qu'il m'a fait il y a quelques semaines sur le livre de Fillmore, parce que j'avais dit vraiment, lis-le en parallèle ou même voir un petit peu avant que tu commences à... Et il m'a dit, oh, ce livre, mais il faudrait qu'il soit vendu avec chaque Bible. Un autre collègue avec qui il a eu la chance de se faire plusieurs fois coincer avec moi dans la voiture pendant quelques heures. Pour ceux qui me connaissent, c'est une erreur. J'aime bien parler. Et on a eu des super discussions sur Dieu, sur l'existence de Dieu, sur les arguments cosmologiques, téléologiques, de la moralité, des choses comme ça. Et j'ai senti que voilà, ça l'avait impacté, mais bon, après, on ne sait jamais. Et puis l'autre jour, il me dit, ouais, tiens, j'étais avec ma copine l'autre jour, on était dans le lit, et puis on a parlé de Jésus, et on ne comprenait pas comment, on trouvait que c'était un peu injuste que Jésus puisse pardonner les péchés de tout le monde. Et donc, bien sûr, on a une belle discussion sur ça, mais le témoignage en soi de se dire, waouh, il était au lit avec sa copine, et il pensait à ça. C'est que ça a dû le marquer quand même. Après, récemment, j'ai vu mon patron et j'ai dû lui expliquer des choses qui n'étaient pas faciles, dont je vais vous parler après. Et le soir même, j'ai eu l'opportunité d'imposer les mains sur lui et de prier pour lui. Quelqu'un qui, avec qui j'ai eu plein de discussions, mais qui n'ont jamais vraiment... voilà, c'est toujours resté assez léger. Et ce jour-là, j'ai réussi... c'est le Seigneur, hein, mais c'est... voilà, fait prendre le courage et y aller. Et après, j'ai partagé les prophéties que je suis en train de vous partager maintenant avec mon associé, dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Parce que je savais que c'était quelque chose de nécessaire à faire. Et que ces paroles prophétiques ont été tellement précises que je me suis dit, il faut que je lui dise maintenant. Parce que si et quand ça se réalise, il pourra regarder et dire, waouh, ok. Ensuite, conseiller des gens haut placés, des influenceurs d'autres nations. Bon, pareil, celui-là, waouh, ça c'est... Bon, j'ai vu John Lotok, premier ministre de Guernsey. Yes, c'est bon, celle-là, elle est accomplie. Next. Non. Depuis cette prophétie, j'ai eu un exemple particulier où on a eu des gens qui sont venus de la République tchèque, des militaires et des gens de l'État, parce qu'en fait, ils veulent créer un nouveau P4, un laboratoire P4, je vous en parlais tout à l'heure, en République tchèque. Et en fait, ils voulaient rencontrer des gens qui pouvaient leur donner des lignes directrices et des conseils. Donc moi, j'étais principalement sur la partie ventilation et confinement, qui sont un peu les plus importants. Et donc ça a été un privilège de pouvoir partager avec eux. Et par rapport au business qu'on va sûrement démarrer la semaine prochaine, et si vous pouvez prier pour ça, ce serait super, la semaine prochaine, je vais au ministère de la Santé pour leur présenter les solutions. Donc, est-ce que vous pensez que Dieu est intéressé par le monde du business? Lorsque vous allez dans votre lieu de travail, vous allez dans votre lieu de ministère. Le royaume de Dieu, il vient avec vous quand vous rentrez dans un lieu. Et j'aimerais finir avec quelques conseils, quelques questions, parce que souvent, voilà, moi, comme je vous disais, le côté apologétique, le côté ok, très bien, je peux être sel et lumière, je peux j'amène Dieu avec moi là où je vais, mais on se dit ouais, mais comment ne pas être trop lourd, ne pas être le gars ouais ok bon ok John t'es chrétien, on l'a compris, lâche-nous un petit peu la grappe. Et donc j'ai lu un livre que je peux conseiller à tout le monde qui sait lire de l'anglais. Et que j'aimerais, on en a parlé avec les anciens de LDN, peut-être faire une formation dessus, qu'on fera en français bien sûr, un livre qui s'appelle Tactique, d'un gars qui s'appelle Greg Kukul aux États-Unis. Il est incroyable ce livre, parce qu'en fait il vous fait réfléchir au fait que quand quelqu'un donne une vérité, ou proclame une vérité, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à la défensive tout de suite. Parce que typiquement, moi quelqu'un me disait, ah ben, moi je crois que toutes les religions elles sont pareilles. Là, tout de suite, ok, allez, bon, alors, c'est pas pareil. Non. Alors, lui, il appelle ça la méthode Colombo, si ça peut vous aider pour vous rappeler. C'est, d'accord, ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Donc, la question, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Demande à la personne de qualifier ce qu'il vient de dire. Et là, il va dire, ah bah oui, mais que toutes les religions, je sais pas, elles ont toutes un message d'amour, de paix, de machin, de truc. Tu dis, ah, ok, d'accord, bon, c'est intéressant. Deuxième question, comment es-tu venu à cette conclusion? Quelles sont les preuves, quelles sont les choses que tu as recherchées qui t'ont permis de conclure ça? Si c'est juste que tu as lu un mème sur Internet, ça ne compte pas. Quelles sont les preuves tangibles sur lesquelles tu as basé ton opinion? Donc c'est vraiment les deux grosses questions, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu es venu à cette conclusion? Déjà ça vous évite, vous, tout de suite, de vous mettre sur la défensive. Et de même devoir riposter, de se mettre à... Laissez la personne faire tout le travail pour vous. Et vous allez vite voir qu'en fait, ils n'ont pas trop réfléchi au truc, et en fait, ils vous ont juste balancé un truc comme ça. Et après, par contre, vous pouvez dire, tiens, est-ce que tu as pensé au fait que les religions, au final, elles ne sont pas toutes pareilles? Et en fait, que si la vérité existe, est-ce qu'elle est unique ou est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs? Est-ce que le ciel, il peut être bleu et rose en même temps? Et enfin, une autre question que je vous invite à demander à quelqu'un, surtout quand vous avez des échanges et qu'il vous pose des questions, vous répondez, il repose une autre, et en fait, ça part dans tous les sens, et vous sentez que lui, il est là avec la mitraillette de questions et que vous ne savez pas où vous en allez. Posez une question, et celle-là, je l'ai posée maintenant plusieurs fois, elle marche très très bien. C'est juste avant de continuer à répondre à tes questions, si le christianisme est vrai, si le christianisme est vrai, est-ce que tu deviendrais chrétien? Et tout de suite, la personne doit qualifier sa position comme une personne de « oui, ok, si c'est vrai, je deviendrai chrétien » ou « non ». Et là, on dit « bon, donc tu me dis que même si je te démontre que c'est vrai, tu ne deviendras pas chrétien ». Et à ce moment-là, on dit « bon, bah, en fait, ça ne sert à rien qu'on continue à parler, en fait ». Donc ça, c'est des questions, je vous encourage, il y en a plein d'autres. Et pareil, si vous voulez, moi, je peux vous parler des heures sur ces sujets-là, c'est parce que je trouve que c'est hyper intéressant, c'est provocateur et ça fait réfléchir. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Comment tu es venu à cette conclusion? Si c'est vrai, est-ce que tu deviendrais chrétien? Déjà, dans vos discussions avec vos collègues de travail, des gens comme ça, c'est vraiment des façons faciles d'avancer dans les discussions avec eux. Et bien sûr, profiter des quand quelqu'un fait baptiser son enfant, de leur poser la question, tiens, tu crois quoi? Etc. Typiquement, pour finir sur une petite histoire avec lui, c'est récemment, il fait baptiser son fils. Et je lui ai dit, ah bah tiens... Bon, tu as fait baptiser, c'est cool, mais tu crois quoi? Et là, il me fait, ah bah tu sais, ah bah non, moi je crois en Jésus, puis je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité, etc. Je dis, oh, super. Je lui dis, donc tu crois que Jésus est Dieu? Ouais, enfin, je crois qu'il y a plusieurs façons d'aller à Dieu, etc. Je lui dis, attends, si tu me dis que Jésus est mort et ressuscité, ça le qualifie comme Dieu, surtout qu'il l'a annoncé avant. Et si Jésus, il a dit que c'est lui le seul chemin qui peut aller au Père, il a clairement dit que toutes les autres religions, c'était pas bon. Ah, il a dit ça? Oui, il a dit ça. Donc voilà, c'est une petite discussion, puis ça fait réfléchir. Donc voilà, vous êtes dans le monde séculier, vous voulez être prêt, je ne peux que vous encourager à vous préparer. Tel un soldat qui va se préparer pour la bataille. Sachez donner la raison pour l'espérance que vous avez. Ce n'est pas un hasard que la Bible nous parle d'armure de Dieu. Il faut être équipé pour aller à la bataille. Mais allez-y comme David. Sachez que la bataille, elle est déjà gagnée. Et une dernière chose, ça c'était l'académie qui me l'a enseigné cette année. Et pareil, ça m'a beaucoup changé dans ma façon de réfléchir sur cette partie de voir mon travail comme mon lieu de ministère. C'est pas moi qui invite le Saint-Esprit pour venir m'aider à parler à quelqu'un. Je ne prétends pas, moi, dire, c'est moi qui vais convertir la personne et Dieu, si tu peux venir me filer un coup de main. C'est non, Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et Saint-Esprit, comment je peux t'aider pour parler à cette personne? Ça renverse la position et le rôle d'importance, c'est de dire, non, en fait, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es au contrôle de toute chose. Moi, je suis juste là. Si je peux être utilisé, utilise-moi.
Merci d'avoir écouté ce message enregistré à la conférence Ascension 2018. Si vous voulez plus d'informations concernant notre famille d'église ou les événements que nous organisons, n'hésitez pas à visiter notre site internet new-ground.fr.